France Inter.
Journal François Chagnot, bonjour.
Bonjour à tous. Le spectre d'une nouvelle guerre plane au Moyen-Orient. Les tensions sont au plus haut entre l'Iran et Israël. Nous serons en direct avec notre correspondant sur place. Cela faisait des semaines que le Rassemblement National et Reconquête s'attaquaient à Fleury-Moucheté. Mais depuis quelques jours, les tensions à l'extrême droite éclatent au grand jour. La Nouvelle-Calédonie se déchire une nouvelle fois sur la question de l'indépendance à l'approche d'un nouveau référendum. Les chasseurs du Doubs cherchent un coupable à la disparition progressive du chevreuil dans le département. Et pour certains, le coupable, eh bien, c'est le lynx. Et puis une cendrillon ou une blanche neige générée par l'intelligence artificielle, ce n'est plus impossible. Disney prend le tournant de l'IA. Et vous invitez à 8h20, Ali et Marion.
Deux autrices québécoises, puisque la belle province est l'invitée d'honneur du Festival du Livre de Paris, la romancière et essayiste féministe Martine Delvaux et Hélène Dorion, première poétesse à figurer de son vivant au programme du bac de français en France.
Vos questions, vos témoignages, votre passion pour la littérature, partagez ça avec nous sur le 01 45 24 7000 au standard ou sur l'application France Inter.
France Inter.
Une guerre entre l'Iran et Israël n'a jamais été aussi probable. Le président américain Joe Biden disait hier soir s'attendre à ce que Téhéran passe bientôt à l'attaque. La République islamique accuse l'État hébreu d'avoir détruit début avril son ambassade à Damas en Syrie. Alors cette riposte, elle n'a pas officiellement commencé, mais le Hezbollah libanais, l'allié de l'Iran, multiplie les tirs de roquettes sur le nord israélien. Bonjour Michel Paul, vous êtes en direct de Jérusalem.
Bonjour François, bonjour à tous.
Et Israël se tient prêt si la situation devait dégénérer.
Oui, les responsables militaires israéliens l'ont réaffirmé hier soir encore. L'armée est prête à répondre à tous les scénarios face à la menace d'une attaque majeure depuis l'Iran ou de ses alliés. Les médias ici citent des informations en provenance des États-Unis. Surtout, on s'attend, selon les renseignements américains, à une attaque menée par une centaine de drones et de missiles de croisière visant des cibles multiples en Israël et qui pourraient se dérouler pendant ce week-end même. Le porte-parole de l'armée israélienne, le général Hagari, souligne qu'à ce stade, il n'y a pas de changement dans les directives de la défense passive. Dans le même souffle, il demande à la population israélienne de rester vigilante, car, dit-il, la défense aérienne, aussi bonne soit-elle, n'est pas hermétique. On parle également d'une coordination renforcée entre Israël et les États-Unis. Le chef du commandement central américain, le CENTCOM, le général Michael Eric Kurila, était en Israël hier pour une évaluation conjointe de la situation. Et le porte-avions américain à propulsion nucléaire Eisenhower a été redéployé dans la mer Rouge à proximité des côtes israéliennes.
Et si elle a lieu, à quelle riposte exactement est-ce qu'on peut s'attendre ?
Mais écoutez, 12 minutes en cas de tir de missile depuis l'Iran, un temps de réponse beaucoup plus long en cas d'attaque de drone. Israël a déployé tout son arsenal de systèmes de défense anti-aérien, mais dans le même temps, les dirigeants israéliens ont annoncé qu'Israël riposterait vers la source des tirs, quelle qu'elle soit. Cela pourrait être donc le début d'une escalade majeure dans la région. Plusieurs pays, notamment les États-Unis et la France, ont demandé à leurs ressortissants de ne pas se rendre en Israël ces jours-ci et pour ceux qui s'y trouvent, de ne pas quitter les grandes villes. Alors oui, François, on peut parler d'une certaine inquiétude, mais les terrasses de café, les restaurants hier soir à Tel Aviv étaient remplis comme tous les vendredis soirs, même si le sujet de discussion principal était souvent cette menace iranienne.
Merci Michel Paul, vous êtes le correspondant de France Inter et RFI en Israël. Si comme 12 millions de personnes chaque année, vous avez déjà passé des vacances à Barcelone, eh bien sachez que les habitants de la capitale catalane en ont ras-le-bol. Les touristes envahissent les transports en commun et le problème est tel que la mairie a fait disparaître de Google Maps les lignes de bus les plus empruntées par les vacanciers. À Barcelone, c'est le reportage de notre correspondant Henri de Laguérie.
Le petit bus rouge et blanc de la ligne 116 monte dans les ruelles escarpées d'une colline de Barcelone, à direction le parc Güell, le célèbre jardin dessiné par Antoni Gaudí. À l'intérieur, il n'y a pas grand monde, mis à part quelques personnes âgées. Depuis que la ligne a disparu de Google Maps, les touristes se sont volatilisés, se réjouit Anita. Elle habite dans le quartier et prend ce bus tous les jours.
Il y a beaucoup moins de monde. Les personnes âgées peuvent s'asseoir, c'est confortable, c'est bien mieux. Une grande idée. Avant, c'était impossible de monter dans le bus. C'était intenable.
Les touristes ignorent désormais l'existence de ce petit bus. Ils prennent le métro et marchent ensuite une dizaine de minutes pour arriver à l'entrée du parc. Cette mesure aussi originale qu'efficace et plutôt bien comprise par Stéphane. Il est originaire de Montréal.
On fait partie du problème, on est là, mais on se rend compte que c'est un problème aussi. Donc on se dit s'il y a moyen que les habitants locaux puissent s'en tirer sans qu'on les dérange trop. Oui. C'est une bonne idée, je pense. Si j'étais local, j'aimerais pouvoir prendre un autobus pour me rendre au travail ou chez moi, là, sans être surbondé. Oui.
Cet été, les lignes de bus les plus saturées, celles qui mènent à la plage, pourraient également disparaître de Google Maps et des applications de mobilité. Barcelone, Henri de la Guérie, France Inter.
Il y a comme un parfum de division à l'extrême droite française à moins de 2 mois des élections européennes. Les relations se tendent entre le Rassemblement national et Reconquête. Jusqu'à présent, chacun semblait retenir ses coups, mais Mathilde Ansker, cette fois-ci, les attaques sont frontales.
C'est sur le terrain des réseaux sociaux que les deux parties s'affrontent, et notamment via un échange de tweets cette semaine entre Jordan Bardella et Nicolas Bay. Nicolas Bay, ancien député RN, passé chez Reconquête il y a 2 ans. Le sujet de la dispute, c'est le pacte migratoire européen. Mais pourquoi déterrer maintenant la hache de guerre? Eh bien, jusqu'à maintenant, le RN feignait de dire qu'on ne pesait pas lourd, mais on a l'air de les préoccuper, s'amuse un cadre Reconquête. Côté Rassemblement national, on assure que non, il n'y a pas d'inquiétude. Un eurodéputé RN confie aussi que toute cette histoire, c'est une manière de s'en prendre à Nicolas Bay. Il nous a trahis en partant chez Reconquête, donc quand on pense qu'il fait une bêtise, on la lui fait payer. En tout cas, les deux parties assurent ne pas changer de stratégie et jurent que, dans leur campagne, l'adversaire, c'est Emmanuel Macron.
Ouais, ce que ne manquera pas de rappeler la tête de liste et patron du RN, Jordan Bardella, lors d'un meeting à Royan aujourd'hui.
La Nouvelle-Calédonie se déchire une nouvelle fois sur la question de son statut.
15 000 indépendantistes ont manifesté face à 17 000 loyalistes à Nouméa hier soir. Alors la question qui cristallise les tensions cette fois-ci, c'est le dégel du corps électoral, autrement dit, qui pourra voter lors du 4e référendum d'autodétermination. C'est un reportage à Nouméa de Médrico Pétessi avec Maliana Courant, Cédric Michaud, Brigitte Wap et Gaël Decheverry.
La Marseillaise d'un côté, 1,5 km plus loin, une chanson indépendantiste. Deux manifestations, les partisans pour une Calédonie française pour l'intégration de 25 000 personnes aux prochaines élections provinciales prévues en décembre.
Comme on dit, on est tous ensemble, c'est pour le dégel, il faut que tout le monde puisse voter. Et on est français avant tout.
En face, des militants indépendantistes contre l'ouverture de ce corps électoral.
Donc je suis là depuis 1993. Il faut respecter les Kanaks chez eux et leur laisser toute la place qu'ils se doivent et reconnaître le fait que nous sommes des accueillis.
Des manifestants venus à travers toute la Calédonie avec deux visions différentes devant un même interlocuteur, l'État.
On avait besoin de se faire entendre à Paris, de faire entendre que on veut le dégel du corps électoral, on veut vivre ensemble, on veut la démocratie tout simplement.
On veut le retrait du texte tout simplement parce que nous ne voulons pas être noyés chez nous. En fait, on sera minoritaire chez nous.
Deux mobilisations dont le calme avec un message commun, ensemble, dans la paix. Même si les tensions devraient persister jusqu'au vote du texte portant sur le dégel du corps électoral, c'est à l'Assemblée le 13 mai prochain, reste maintenant à savoir si le message a été entendu jusqu'à Paris.
Et depuis 1987, les Néo-Calédoniens ont déjà rejeté 3 fois l'indépendance lors de référendums. Des larmes dans les rues de Viry-Châtillon en hommage à Chemseddine. Hier, cet adolescent de 15 ans battu à mort près de son collège de l'Essonne la semaine dernière. 2000 personnes ont participé à cette marche blanche. 4 jeunes hommes, 3 mineurs et 1 majeur ont été mis en examen pour assassinat et placés en détention provisoire. Les chasseurs du Doubs ont de moins en moins de chevreuils en ligne de mire. C'est la conséquence du réchauffement climatique. Mais certains adhérents de cette fédération de chasse accusent le lynx et veulent obtenir l'autorisation de tuer cette espèce pourtant protégée, Christophe Beck.
Il y a près de 2 mois, l'association de chasse communale de Fournay-Luisant dans le Haut-Doubs réclamait le déclassement du lynx, accusé de décimer les populations de chevreuils. « Pas question », a répondu le président de la Fédération des chasseurs du Doubs, Jean-Maurice Boyon.
« Un groupe de chasseurs insatisfaits des plans de chasse chevreuil se trompe de cible. Le lynx n'est pas le vecteur qui enclenche cette forte diminution de chevreuil que l'on connaît actuellement. »
À Tulet, dans le pays de Montbéliard, les Prenais, père et fils, qui président l'association communale de chasse, militent pour une cohabitation apaisée entre le lynx et les chevreuils.
S'ils mangent un chevreuil, c'est un chevreuil par semaine. C'est sûr que si ça arrive sur son territoire, on n'est pas content. Mais après, bon, faut que tout le monde vit. Hein, donc.
Une place pour chaque espèce. Il ne faut pas être anti-lynx, il ne faut pas être anti-loup totalement non plus. Après, c'est vrai qu'on n'a plus les espaces pour le loup non plus.
Le vrai souci du chevreuil dans le Doubs est à trouver du côté du réchauffement de nos campagnes.
Le changement climatique, les évolutions météorologiques, certainement un des facteurs qu'on cherche à étudier et à comprendre. Parce que le chevreuil est un animal qui, lui, par contre, ne s'adapte pas du tout au changement climatique.
Le nombre de chevreuils prélevés dans le Doubs cette année a reculé de 600 individus, en grande partie en raison du changement climatique.
Christophe Beck de France Bleu, Belfort, Montbéliard. Cela devait finir par arriver. Disney revendique avoir utilisé l'intelligence artificielle dans l'une de ses séries, une production indienne très populaire dans le pays, sortie le mois dernier sur la plateforme Disney, justement. Alors, c'est très discret, preuve que l'IA inonde aussi les productions audiovisuelles sans s'en cacher, Victor Vasseur.
Il faut avoir l'œil, le générique de fin de la série défile, avec le nom des acteurs, la production, l'équipe technique et dans la section musique, une dizaine de noms apparaissent. Mais l'un d'entre eux interroge, car ChatGPT est crédité. Oui, il semble avoir écrit les paroles d'une chanson que l'on peut entendre en arrière-fond dans une boîte de nuit. La musique, elle, a été composée par un humain. Une simple assistance, donc. C'est la première fois que ChatGPT est crédité au générique d'une œuvre en prise de vue réelle. Mais cette transparence n'est pas anodine. Disney a déjà fait appel à l'IA dans l'une de ses productions. L'an passé, elle a utilisé l'intelligence artificielle générative pour créer le générique de début de l'une de ses séries Marvel. De quoi s'attirer les foudres d'une partie de la profession. Preuve que l'IA est source de tension. Elle était l'une des raisons de la grève des comédiens et des scénaristes à Hollywood l'an passé. Ils ont finalement obtenu des garanties sur l'utilisation de l'IA dans les films et les séries. En tout cas, créditer ChatGPT est susceptible de relancer le débat sur le recours à un robot dans une création artistique.
France Inter, 8h12, le journal des sports.
Avec Clara Lecoq-Créal aujourd'hui. Bonjour Clara.
Bonjour François, bonjour à tous.
Alors le printemps sourit au club français en basket européen.
Basket chez les hommes d'abord, puisque le Paris Basketball a remporté l'Eurocoupe hier soir. C'est la deuxième compétition d'Europe. Une victoire à Bourg-en-Bresse 89-81 et surtout une consécration pour ce club parisien qui a été créé il y a 6 ans seulement, en 2018. Le Paris Basketball tout jeune et plein d'ambition comme son meneur de jeu. Nadir Rifi, 21 ans, interrogé sur Squeak, en pleurs.
J'ai lâché des larmes après le match. J'ai fait ma première entrée en pro ici. Et voir aujourd'hui que je suis champion d'Europe ici, c'est incroyable. Il y a 4 ans, je jouais en National 3. J'ai travaillé comme un fou. Les gens ne croyaient pas en moi. Je suis tombé sur des bonnes personnes qui m'ont aidé pour arriver jusqu'à là. Et quand je me dis, c'est que le début, c'est incroyable, c'est incroyable. Ces gars, je les aime, on travaille comme des oufs tous les jours. Et remporter ce trophée, c'est une dinguerie. C'est un truc de fou.
La fête hier soir au Paris Basketball et un ticket décroché l'année prochaine pour l'Euroleague. L'Euroleague, justement, c'est le Graal européen en basket. Et là, ce sont les filles de Villeneuve-d'Ascq qui se sont qualifiées pour la finale. Une grande première pour le club et pour une équipe française depuis 20 ans. Les basketteuses nordistes ont battu Prague, ultra favorite, 84-78. La finale, elle est prévue demain 18h en Turquie face au Fenerbahçe. Le gymnase de Villeneuve-d'Ascq, le Palatium, ouvrira ses portes aux supporters pour l'occasion.
Question de Coupe d'Europe en rugby aussi ce week-end.
Avec les quarts de finale de la Champions Cup, 3 clubs français en lice, dont l'Union Bordeaux-Bègle qui accueille les Harlequins de Londres. L'UBB ambitieux cette année, Fanny Lechevestrier.
Depuis le début de la Coupe des Champions, Bordeaux régale avec pas moins de 32 essais marqués, soit l'équipe la plus offensive de la compétition. Mais cela, ça ne remplit pas l'armoire à trophées, du moins pas encore, reconnaît l'ailier du 15 de France, Libia Albiaret.
C'est sûr que voilà, je pense qu'on a fait une super campagne européenne. Maintenant, on veut se payer aussi. Voilà, on a des grandes ambitions, on veut gagner des titres.
Mais pour gagner des titres, Bordeaux doit aussi arrêter de jouer sur courant alternatif, comme le soulignait avec humour le manager Yannick Bru, à l'issue des huitièmes de finale remportés haut la main face au Saracens.
Si on est l'équipe de Bègle-Bordeaux que je connais depuis le début de l'année, on devrait faire un match dégueulasse. Ça fait 6 mois que je suis avec eux, ça se passe comme ça tout le temps. Donc. Et si on perd, on sera tous unanimes pour dire ouais, tout ça pour ça.
Alors avec quel visage va se présenter Bordeaux cet après-midi? Thibaut Giroud, aujourd'hui directeur de la performance à l'UBB, est persuadé que cette fois-ci, il n'y aura pas de trou d'air.
C'est des phases finales, donc si les mecs ne sont pas remontés comme des coucous pour ces matchs-là, c'est l'envie qui prime. Je ne me fais pas de soucis pour l'envie du groupe ce week-end.
Même l'absence de Mathieu Jalibert est sans doute de Damien Penaud, n'inquiétait pas hier les Bordelais prêts à écrire leur histoire, portée par un stade Chaban-Delmas qui devrait une fois de plus s'afficher complet.
Et on verra cela cet après-midi à 16h dans la foulée à 18h30. Le double tenant du titre en Champions Cup, La Rochelle, jouera à Dublin face au Leinster.
Du football aussi, Clara.
Avec la mauvaise passe hier soir de Lens, battu 2-1 par l'avant-dernier de Ligue 1, Metz. Aujourd'hui à 17h, Strasbourg reçoit Reims et Rennes-Toulouse à 21h. Et puis je vous signale rapidement, en bref aussi, le beau parcours en tennis d'Hugo Humbert qui s'arrête aux portes du dernier carré du tournoi de Monte-Carlo sur terre battue avant Roland-Garros. Et puis la sélection judo qui, ça y est complète pour les Jeux Olympiques cet été. 14 élus pour porter les couleurs de la France. Le judo, je vous le signale, avait décroché 8 médailles à Tokyo, un quart du total tricolore.
Merci Clara Lecoq-Réal.
Dans le journal de François Chagnot, il est 8h15.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Votre conseil, Camille Esnault, profitons bien de cette journée estivale.
Et oui, puisque dès demain, les nuages envahissent la majeure partie du pays. Mais pour aujourd'hui, c'est bien le soleil qui domine après la dissipation de quelques brouillards matinaux sur la moitié nord, sur le nord-ouest, près des Ardennes, jusqu'au Val-de-Saône. La grisaille résiste un peu plus. Et dans la journée, près des côtes de la Charente-Maritime, sur le Finistère, jusqu'aux côtes de la Manche, des nuages bas vont circuler et déborder jusqu'à la Haute-Normandie et les Hauts-de-France, avec le vent qui se lève sur le Nord-Pas-de-Calais jusqu'à 50 km/h en rafale.
Et un pic de chaleur cet après-midi ?
Jusqu'à 30 degrés attendus en Aquitaine, dans le Limousin, en Occitanie, en région PACA. On est 8 à 12 degrés au-dessus des normales d'avril. Alors ce matin, les températures sont déjà élevées. On a 6 à Rodez pour la minimale, 7 à 3, 9 à Rouen, 10 à Lyon, 11 à Saint-Brieuc, 12 à Bordeaux, 13 à Avignon et jusqu'à 16 degrés sur la promenade de Nice.
Merci Camille Esnault, Inter, 8h16, géopolitique.